Alexandre Dumas, Les crimes célèbres, Les Cinci. Si vous allez à Rome et que vous visitiez la Villa Pamphili, sans doute, après avoir été cherché sous ses grands pins et le long de ses canaux l'ombre et la fraîcheur, si rares dans la capitale du monde chrétien, vous redescendrez vers le mont Janicule par un délicieux chemin au milieu duquel vous rencontrerez la fontaine Pauline. Ce monument dépassé, et après vous être arrêté un instant sur la terrasse de l'église de Saint-Pierre et Montorio, qui domine Rome tout entière, vous visiterez le cloître du Bramante, au centre duquel, dans un enfoncement de quelques pieds, est bâti, sur la place même où fut crucifié Saint-Pierre, un petit temple moitié grec, moitié chrétien. Puis vous remonterez par une porte latérale dans l'église elle-même. Là, le cicérone obligé vous fera voir, dans la première chapelle à droite, le Christ flagellé de Sébastien del Piombo, et dans la troisième chapelle à gauche, un Christ au sépulcre par le Fiammingo. Ces deux chefs-d'œuvre examinés à loisir, il vous conduira à chaque extrémité de la croix transversale et vous montrera, d'un côté, un tableau de Salviati sur ardoise et de l'autre, une peinture de Vasari. Puis, vous faisant voir tristement sur le maître-autel une copie du martyr de Saint-Pierre du Guide, il vous racontera que c'était là que fut adorée, pendant 3 siècles, la transfiguration du divin Raphaël, enlevée par les Français en 1809 et rendue au pape par les Alliés en 1814. Comme vous aurez déjà probablement admiré ce chef-d'œuvre au Vatican, laissez-le dire et cherchez au pied de l'autel une dalle tumulaire que vous reconnaîtrez à une croix et au simple mot « Orate ». C'est sous cette dalle qu'est enterrée Béatrix Cinci, dont l'histoire tragique a dû vous laisser un si profond souvenir. Elle était fille de Francesco Cinci. Pour peu que l'on croie que les hommes naissent en harmonie avec leur siècle et que les uns le résument en bien et les autres en mal, peut-être sera-t-il curieux pour nos lecteurs de jeter un coup d'œil rapide sur la période qui venait de s'écouler lorsque s'accomplirent les événements que nous allons raconter. Francesco Cinci leur apparaîtra alors comme l'incarnation diabolique de son époque. Le 11 août 1492, après la longue agonie d'Innocent VIII, pendant laquelle 220 meurtres furent commis dans les rues de Rome, Alexandre VI était monté sur le trône pontifical. Fils d'une sœur du pape Calixte III, Roderic Lenzuoli Borgia avait eu, avant d'être cardinal, 5 enfants de Rose Vanozza, qu'il avait fait épouser ensuite à un riche romain. Ses enfants étaient François, qui fut duc de Gandie, César, qui fut évêque et cardinal, puis duc de Valentinois, Lucrèce, qui, après avoir eu pour amants son père et ses 2 frères, fut mariée 4 fois. La première à Jean Sforza, seigneur de Pesaro, qu'elle quitta pour cause d'impuissance. La seconde à Alphonse, duc de Biglia, que César fit assassiner. La troisième à Alphonse d'Este, duc de Ferrare, dont un second divorce la sépara. Enfin, la quatrième à Alphonse d'Aragon, qui fut d'abord poignardé sur les marches de la basilique de Saint-Pierre, puis étranglé 3 semaines après parce qu'il ne mourait pas assez vite de ses blessures, qui cependant étaient mortelles. Guifry, comte de Squillace, dont on sait peu de choses. Puis enfin un dernier dont on ne sait rien du tout. Le plus connu de ses 3 frères était César Borgia. Il avait tout arrangé pour être roi d'Italie à la mort de son père, et ses mesures étaient prises de manière à ne pas lui laisser de doute sur la réussite de ce vaste projet. Tous les cas étaient prévus, excepté un seul. Mais ce cas, il eût fallu être Satan lui-même pour le deviner. Le lecteur en jugera. Le pape avait invité à souper le cardinal Adrien dans sa vigne du Belvédère. Le cardinal Adrien était fort riche et le pape désirait en hériter, comme il avait fait déjà des cardinaux de Saint-Ange, de Capoue et de Modène. En conséquence, César Borgia avait envoyé 2 bouteilles de vin empoisonné à l'échanson de son père, sans le mettre dans la confidence. Seulement, il lui avait recommandé de n'employer ce vin que lorsqu'il lui en donnerait l'ordre. Malheureusement, pendant le souper, l'échanson s'éloigna un instant, et dans cet intervalle, un domestique maladroit servit justement de ce vin au pape, à César Borgia et au cardinal de Corneto. Alexandre VI mourut au bout de quelques heures. César Borgia fut cloué dans son lit, où il changea entièrement de peau. Enfin, le cardinal de Corneto, après avoir perdu la vue et l'usage de ses sens, fit une maladie dont il pensa mourir. Pie III succéda à Alexandre VI et régna 25 jours. Le 26e, il fut empoisonné. César Borgia avait 18 cardinaux espagnols qui lui devaient leur entrée dans le sacré collège. Ces cardinaux étaient entièrement à lui et il en pouvait faire ce qu'il voulait. Comme il était toujours mourant et qu'il n'en pouvait rien faire pour lui-même, il les vendit à Julien de la Rovère et Julien de la Rovère fut élu pape sous le nom de Jules II. À la Rome de Néron succéda l'Athènes de Périclès. Léon X continua Jules II et le christianisme prit sous son pontificat un caractère païen qui, passant de l'art dans les mœurs, donne à cette époque un caractère étrange. Les crimes ont momentanément disparu pour faire place aux vices, mais à des vices charmants, à des vices de bon goût, comme ceux que pratiquait Alcibiade et que chantait Catulle. Léon X mourut après avoir réuni sous son règne, qui avait duré 8 ans, 8 mois et 19 jours, Michel-Ange, Raphaël, Léonard de Vinci, Le Corrège, Le Titien, André del Sarto, Le Frate, Jules Romain, L'Arioste, Guichardin et Machiavel. Jules de Médicis et Pompée Colonna étaient sur les rangs pour lui succéder. Comme c'étaient deux politiques habiles, deux courtisans rompus aux affaires et de plus deux hommes d'un mérite réel et presque égal, ni l'un ni l'autre ne pouvaient obtenir la majorité et le conclave se prolongeait au grand ennui des cardinaux. Or, il arriva qu'un jour, un cardinal, plus ennuyé que les autres, proposa d'élire, au lieu de Médicis ou de Colonna, le fils, l'un disait d'un tisserand et les autres d'un brasseur de bière d'Utrecht, auquel personne n'avait pensé jusqu'alors, et qui était pour le moment gouverneur de la monarchie en Espagne en l'absence de Charles Quint. La plaisanterie eut du succès, tous les cardinaux applaudirent à la proposition de leurs collègues, et Adrien fut nommé pape par hasard. C'était un véritable flamand qui ne savait pas un mot d'italien. Lorsqu'il arriva à Rome et qu'il vit les chefs-d'œuvre grecs rassemblés à si grands frais par Léon X, il voulut les faire briser en s'écriant « Sunt idola anticorum ». Son premier soin fut d'envoyer le noce François Chérega à la diète de Nuremberg, assemblée au sujet des troubles de Luther, avec des instructions qui donnent une idée des mœurs de l'époque. « Avouez ingénument, dit-il, que Dieu a permis ce schisme et cette persécution à cause des péchés des hommes et surtout de ceux des prêtres et des prélats de l'Église, car nous savons qu'il s'est passé dans le Saint-Siège beaucoup de choses abominables. » Adrien voulait ramener les Romains aux mœurs simples et austères de la primitive Église et porta à cet effet la réforme jusque dans les moindres détails. De 100 palefreniers qu'avait Léon X, par exemple, il n'en conserva que 12, afin, disait-il, d'en avoir 2 de plus que les cardinaux. Un pareil pape ne pouvait régner longtemps. Aussi mourut-il après 1 année de pontificat. Le lendemain de sa mort, on trouva la porte de son médecin ornée de guirlandes de fleurs avec cette inscription « Au libérateur de la patrie ». Jules de Médicis et Pompée Colonna se retrouvèrent sur les rangs. Les intrigues recommencèrent et le conclave se trouva de nouveau partagé de telle façon que les cardinaux crurent un instant qu'ils ne pourraient s'en tirer que comme ils avaient déjà fait, c'est-à-dire en élisant un troisième compétiteur. Il était même déjà question du cardinal Orsini lorsque Jules de Médicis s'avisa d'un expédient assez ingénieux. Il lui manquait 5 voix. 5 de ses partisans offrirent à 5 des partisans de Colonna de parier 100 000 ducats contre 10 000 que Jules de Médicis ne serait pas élu. Au premier tour de scrutin qui suivit le pari, Jules de Médicis eut les 5 voix qui lui manquaient. Il n'y avait rien à dire, les cardinaux ne s'étaient point vendus, ils avaient parié, voilà tout. En conséquence, le 18 novembre 1523, Jules de Médicis fut proclamé pape sous le nom de Clément VII. Le même jour, il paya généreusement les 500 000 ducats que ses 5 partisans avaient perdus. Ce fut sous ce pontificat et durant les 7 mois où Rome, conquise par les soldats luthériens du connétable de Bourbon, voyait commettre sur les choses saintes les plus affreuses profanations que naquit Francesco Cenci. C'était le fils de Monseigneur Nicolas Cenci, trésorier apostolique sous le pontificat de Pie V. Ce vénérable prélat, s'étant beaucoup plus occupé de l'administration spirituelle que de l'administration temporelle de son royaume, Nicolas Cenci avait profité de ce détachement des choses mondaines pour amasser un revenu net de 160 000 piastres, à peu près 2 500 000 francs de notre monnaie. Francesco Cenci, qui était son fils unique, hérita de cette fortune. Il avait passé sa jeunesse sous des papes si occupés du schisme de Luther qu'il n'avait guère le temps de penser à autre chose. Il en résulte que Francesco Cenci, né avec des instincts mauvais et maître d'une fortune immense qui lui permettait d'acheter l'impunité, s'abandonna à tous les désordres de son tempérament fougueux et passionné. Mis 3 fois en prison pour des amours infâmes, il s'en tira moyennant 200 000 piastres, 5 millions de francs à peu près. Il faut dire aussi qu'à cette époque, les papes avaient grand besoin d'argent. Ce fut surtout sous Grégoire XIII que l'on commença de s'occuper sérieusement de Francesco Cenci. Il est vrai que ce pontificat prêtait merveilleusement au développement d'une réputation comme celle à laquelle visait cet étrange Don Juan. Sous le Bolognais Buoncompagni, tout était permis à Rome à quiconque pouvait payer à la fois l'assassin et les juges. Le viol et le meurtre étaient choses si communes que la justice publique s'occupait à peine de ces bagatelles si personne n'était là pour poursuivre le coupable. Aussi Dieu récompensa le bon Grégoire XIII de son indulgence et eut la joie de voir la Saint-Barthélemy. À cette époque, Francesco Cenci était déjà un homme de 44 à 45 ans, de 5 pieds 4 pouces à peu près, fort bien pris dans toute sa taille et très fort, quoiqu'il semblât un peu maigre. Il avait les cheveux grisonnants, les yeux grands et expressifs, quoique la paupière supérieure retombât un peu trop, le nez long, les lèvres minces et le sourire plein de grâce. Ce sourire, au reste, changeait facilement d'expression et devenait terrible lorsque son œil rencontrait un ennemi. Alors, et pour peu qu'il fût ému ou irrité, un tremblement nerveux le prenait, qui se prolongeait en frissonnement longtemps après que la crise qu'il avait fait naître était passée. Adroit à tous les exercices du corps, et surtout à l'équitation, il allait quelquefois d'une seule traite de Rome à Naples, bien qu'il y ait 41 lieues de l'une à l'autre ville, passant par les bois de San Germano et les marais pontins, sans s'inquiéter des brigands, quoiqu'il fût seul et quelquefois sans autres armes que son épée ou son poignard. Quand son cheval tombait de lassitude, il en achetait un autre. Si on ne voulait pas le lui vendre, il le prenait de force. Si on résistait, il frappait, et cela toujours par la pointe et jamais avec la poignée. Au reste, comme il était connu dans tous les états de sa sainteté et qu'on le savait généreux, personne ne s'opposait à sa volonté, les uns cédant par crainte, les autres par intérêt. D'ailleurs, impie, sacrilège et athée, il n'entrait jamais dans une église, ou s'il y entrait, c'était pour blasphémer Dieu. Beaucoup disaient qu'il était avide d'événements bizarres et qu'il n'y avait pas de crime qu'il n'eût commis s'il avait cru trouver dans son accomplissement une seule sensation nouvelle. Il avait épousé, à l'âge de 45 ans à peu près, une femme fort riche dont aucun chroniqueur ne dit le nom. Elle mourut, lui laissant 7 enfants, 5 garçons et 2 filles. Alors il épousa en seconde noce Lucrezia Petroni, qui, à part son teint, qui était d'une blancheur éclatante, offrait le type parfait de la beauté romaine. Ce second mariage fut stérile. Comme si Francesco Cenci n'avait dû éprouver aucun des sentiments naturels à l'homme, il détestait ses enfants et ne se donnait point la peine de cacher la haine qu'il leur portait. Un jour qu'il faisait bâtir, dans la cour de son magnifique palais situé près du Tibre, une église dédiée à saint Thomas, il dit à l'architecte, en lui faisant faire le plan d'un caveau somptuaire, « C'est là que j'espère les mettre tous. » L'architecte avoua souvent depuis qu'il avait été épouvanté du rire qui accompagna ses paroles et que, s'il n'avait pas eu tant à gagner à travailler pour Francesco Cenci, il eût refusé de continuer son ouvrage. Aussi, à peine ses fils purent-ils se conduire seuls qu'il envoya les 3 aînés, Jacques, Christophe et Roch, à l'université de Salamanque en Espagne. Sans doute il pensait qu'il suffisait de les éloigner de lui pour en être débarrassé à toujours, car à peine furent-ils partis qu'il ne songea plus à eux, pas même pour leur envoyer de quoi vivre. Aussi, après quelques mois de lutte et de misère, les trois malheureux jeunes gens furent-ils obligés de quitter Salamanque. Ils revinrent en mendiant tout le long de la route, traversèrent la France et l'Italie à pied et nu-pieds, et regagnèrent Rome, où ils trouvèrent leur père plus sévère, plus âpre et plus rigide que jamais. C'était dans les premières années du règne de Clément VIII, qui était renommé pour sa justice. Les trois jeunes gens résolurent de s'adresser à lui afin d'obtenir que, sur les immenses richesses de leur père, sa sainteté ordonna qu'il leur fût fait une petite pension. Ils allèrent en conséquence trouver le pape à Frascati, où ils faisaient bâtir la belle villa Aldobrandini, et lui exposèrent leur cause. Le pape reconnut leurs droits et força Francesco à leur faire à chacun une pension de 2000 écus. Francesco chercha par tous les moyens possibles à éluder cette décision, mais il reçut des ordres si précis qu'il lui fallut obéir. Ce fut vers cette époque qu'il fut, pour la troisième fois, mis en prison pour ses amours infâmes. Ses trois fils, alors, s'adressèrent de nouveau au pape, disant que leur père déshonorait leur nom et le suppliant de déployer à son égard toute la sévérité de la loi. Le pape trouva une pareille démarche odieuse et les chassa honteusement de sa présence. Quant à Francesco, il s'en tira, cette fois encore, comme il avait fait pour les deux autres, c'est-à-dire à prix d'argent. On comprend que cette démarche ne changea point en amour la haine que Francesco portait à ses enfants. Seulement, comme les fils pouvaient se soustraire à la colère paternelle, indépendants qu'ils étaient par la pension qu'ils avaient obtenue, cette colère retomba sur ces deux malheureuses filles. Bientôt, leur situation devint si intolérable que l'aînée, quoique surveillée de près, parvint à faire remettre au pape une supplique dans laquelle elle lui racontait les mauvais traitements auxquels elle était en butte et suppliait sa sainteté de la marier ou de la placer dans un monastère. Clément VIII eut pitié d'elle. Il força Francesco Sensi à lui donner une dot de 60 000 écus et la fit épouser à Carlo Gabrielli d'une noble famille de Gubbio. Francesco pensa devenir fou de colère en se voyant arracher cette victime. Vers le même temps, la mort se chargea d'en délier deux autres. Roque et Christophe Sensi furent tués à un an de distance, l'un par un charcutier dont on ignore le nom, l'autre par Paul Corso de Massa. Ce fut une consolation à la douleur de Francesco, qui poursuivit de son avarice ses fils jusqu'après leur mort, car il signifia au prêtre qu'il ne dépenserait pas un barocco pour les frais de l'église. Ils furent donc apportés au caveau qu'il leur avait fait préparer sous ses yeux, dans la bière des mendiants. Et lorsqu'il les y vit coucher tous deux, il s'écria qu'il était déjà bien heureux d'être débarrassé de deux si mauvaises créatures, mais qu'il ne le serait complètement que lorsque ses cinq autres enfants seraient déposés près des deux premiers, et que, lorsque le dernier viendrait enfin à trépasser, il voulait, en signe de joie, illuminer son palais en y mettant le feu. Cependant, Francesco avait pris toutes ses précautions pour que sa seconde fille, Béatrice Sensi, ne suivît point l'exemple de la première. C'était alors une enfant de 12 à 13 ans, belle et innocente comme les anges. De longs cheveux blonds, cette beauté si rare en Italie que Raphaël, la croyante divine, l'a donnée à toutes ses madones, découvrait en se partageant un front admirablement formé et flottait en grosses boucles sur ses épaules. Ses yeux d'un bleu d'azur étaient de la plus céleste expression. Sa taille était moyenne mais bien proportionnée, et dans les courts instants où son caractère naturel pouvait se faire jour à travers ses larmes, il reparaissait vif, joyeux et compatissant, mais en même temps plein de fermeté. Afin d'être sûr d'elle, Francesco la tenait enfermée dans une chambre retirée de son palais, dont lui seul avait la clé. Là, l'étrange et inflexible geôlier venait la visiter chaque jour pour lui apporter ses repas. Jusqu'à cet âge de 13 ans, auquel elle était enfin parvenue, il s'était montré pour elle d'une dureté implacable, mais bientôt, au grand étonnement de la pauvre Béatrix, il s'adoucit. C'est que Béatrix, d'enfant, devenait jeune fille. C'est que sa beauté s'ouvrait comme une fleur. C'est que Francesco, auquel aucun crime ne devait être étranger, avait jeté un regard incestueux sur elle. On comprend qu'avec l'éducation qu'avait reçue Béatrix éloignée comme elle l'était de toute société, même de celle de sa belle-mère, elle fut ignorante du mal comme du bien. Elle était donc plus facile à perdre qu'une autre, et cependant, Francesco ne mit pas moins en œuvre, pour cet acte de démon, toutes les ressources de son esprit. Pendant quelque temps, Béatrix fut réveillée chaque nuit par une musique délicieuse qui lui semblait venir du paradis. Lorsqu'elle en parlait à son père, il la laissait dans cette persuasion, ajoutant que si elle était douce et obéissante, bientôt, par une récompense spéciale de Dieu, ce ne serait plus assez pour elle d'entendre, mais qu'elle verrait. En effet, une nuit que, accoudée sur son lit, la jeune fille écoutait cette ravissante harmonie, la porte de sa chambre s'ouvrit tout à coup, et de l'obscurité où elle était, ses regards plongèrent dans des appartements chaudement éclairés et pleins de ces parfums comme on en respire dans les rêves. De beaux jeunes gens et de belles femmes à moitié nues, comme elle en avait vu dans les tableaux du guide et de Raphaël, se promenaient dans les appartements et semblaient pleins de joie et de bonheur. C'étaient les mignons et les courtisanes de Francesco qui, riches comme un roi, renouvelaient chaque nuit les orgies d'Alexandre aux noces de Lucrèce et les débauches de Tibère à Caprée. Après une heure, la porte se referma et la vision séductrice disparut, laissant Béatrix pleine de trouble et d'étonnement. La nuit suivante, la même apparition se renouvela. Seulement, cette nuit, Francesco Cenci entra dans la chambre de sa fille et l'invita à prendre part à la fête. Francesco était nu. Sans savoir pourquoi, Béatrice comprit qu'elle ferait mal de céder aux instances de son père. Elle répondit que, ne voyant point parmi toutes ses femmes Lucrezia Petroni, sa belle-mère, elle n'osait quitter son lit pour aller ainsi avec des inconnus. Francesco menaça et pria, mais menaces et prières furent inutiles. Béatrix s'enveloppa dans ses draps et refusa obstinément d'obéir à Francesco. Le lendemain, elle se jeta sur son lit tout habillée. À l'heure habituelle, sa porte s'ouvrit et le spectacle nocturne reparut. Cette fois, Lucrezia Petroni était au nombre des femmes qui passaient devant la porte de Béatrix. La violence l'avait contrainte à cette humiliation. Béatrix était trop loin pour voir sa rougeur et ses larmes. Francesco lui montra sa belle-mère, qu'elle avait cherchée en vain la veille, et comme elle n'avait plus rien à dire, il emmena toute confuse et toute rougissante au milieu de cette orgie. Là, Béatrix vit des choses inconnues et infâmes. Néanmoins, elle résista longtemps. Une voix intérieure lui disait que tout cela était horrible. Mais Francesco avait la lente persistance d'un démon. À ces spectacles qu'il croyait propres à éveiller ses sens, il joignait des hérésies faites pour égarer son esprit. Il lui disait que les plus grands saints que l'Église vénère étaient tous nés du commerce du père et de la fille. Et Béatrix avait commis un crime qu'elle ignorait encore ce que c'était qu'un péché. Alors il n'y eut plus de bornes à sa brutalité. Il forçait Lucrezia et Béatrix à partager le même lit, menaçant sa femme de la tuer si elle révélait par un mot à sa fille ce qu'avait d'odieux une pareille communauté. Si bien que les choses durèrent ainsi pendant près de 3 années. Vers ce temps, Francesco fut obligé de faire un voyage. Force lui fut alors de laisser les femmes seules et libres. La première chose que fit aussitôt Lucrezia fut de révéler à Béatrix toute l'infamie de leur existence. Alors elles dressèrent ensemble leur mémoire, dans lequel elles exposaient au pape tout ce qu'elles avaient eu à souffrir de coups et d'outrages. Mais avant de partir, Francesco Cenci avait pris ses précautions. Tout ce qui entourait le pape lui était vendu ou espérait se vendre. La supplique ne parvint point aux mains de sa sainteté, et les deux pauvres femmes, qui se rappelaient que Clément VIII avait autrefois chassé de sa présence Jacques, Christophe et Roch, se crurent comprises dans la même proscription et se regardèrent comme abandonnées. Sur ces entrefaites, Jacques, profitant de l'absence de son père, vint les visiter avec un abbé de ses amis nommé Guerrea. C'était un jeune homme de 25 à 26 ans, issu d'une des plus nobles familles de Rome, d'un caractère ardent, résolu et courageux, et que toutes les femmes citaient pour sa beauté. En effet, il avait, avec ses grands traits romains, des yeux bleus d'une merveilleuse douceur, de longs cheveux blonds avec une barbe et des sourcils châtains. Ajoutez à cela une vaste instruction, une éloquence naturelle pleine de charme, une voix douce au timbre vibrant, et vous aurez une idée de Monsignor l'abbé Guerra. À peine eut-il vu Béatrix qu'il en devint amoureux. De son côté, la jeune fille ne tarda point à se prendre de sympathie pour le beau prélat. Le concile de Trente n'avait point encore eu lieu, et par conséquent, les ecclésiastiques pouvaient se marier. Il fut convenu qu'au retour de Francesco, l'abbé Guerra demanderait la main de Béatrix à son père, et les femmes, heureuses de l'absence de leur maître, continuèrent de vivre en rêvant un meilleur avenir. Après 3 ou 4 mois, pendant lesquels on avait complètement ignoré ce qu'il était devenu, Francesco revint. Dès la première nuit, il voulut reprendre avec sa fille ses incestueux caprices. Mais Béatrix n'était plus la même. L'enfant timide et soumise était devenue une jeune fille outragée. Elle résista aux prières, aux menaces et aux coups. Elle était forte et puissante de son amour. La colère de Francesco retomba sur sa femme, qu'il accusait de l'avoir trahie. Il la frappa rudement avec un bâton. Lucrezia Petroni était une véritable louve romaine, ardente en amour, ardente en vengeance. Elle supporta tout, mais ne pardonna rien. Cependant, au bout de quelques jours, l'abbé Guerra se présenta chez Francesco Sensi pour accomplir la démarche convenue. Guerra, riche, jeune, noble et beau, était dans toutes les conditions qui pouvaient lui donner de l'espérance, et cependant, il fut brutalement éconduit par Francesco. Ce premier refus ne le rebuta point. Il revint à la charge une seconde et une troisième fois, insistant sur les convenances d'une pareille union. Enfin, Francesco, impatienté, répondit à cet amant obstiné qu'il y avait une raison pour que Béatrix ne fût ni sa femme, ni la femme d'aucun autre. Guerra demanda quelle était cette raison. Francesco répondit « C'est qu'elle est ma maîtresse. » Monsignor Guerra pâlit à une pareille réponse, quoique d'abord il n'en crut pas un mot, mais lorsqu'il vit de quel sourire Francesco Sensi avait accompagné ses paroles, il fut bien forcé de croire que, si terrible qu'elle fût, il lui avait dit la vérité. Guerra fut 3 jours sans pouvoir pénétrer jusqu'à Béatrix. Enfin, il parvint à elle. Son dernier espoir était que Béatrix nierait de pareilles horreurs. Béatrix avoua tout. Dès lors, il n'y eut plus aucun espoir humain pour les deux amants. Un abîme infranchissable les séparait. Ils se quittèrent tout en larmes en se promettant de s'aimer toujours. Cependant, les deux femmes n'avaient encore pris aucune résolution criminelle, et peut-être tout se serait-il passé ainsi dans l'ombre et sans bruit si, une nuit, Francesco ne fût rentré dans la chambre de sa fille et ne l'eût forcé par la violence à un nouveau crime. Dès lors, tout fut dit, Francesco était condamné. Nous l'avons dit, Béatrix avait une de ces âmes capables des meilleurs comme des plus mauvais sentiments. Elle pouvait monter jusqu'à l'excellent et descendre jusqu'au pire. Elle alla trouver sa mère, lui raconta le nouvel outrage dont elle venait d'être victime. Ce récit réveilla chez l'autre femme le souvenir des mauvais traitements qu'elle avait reçus, et toutes deux, s'excitant l'une à l'envie de l'autre, décidèrent qu'il fallait tuer Francesco. Guerra fut appelé à ce conseil de mort. Il avait le cœur plein de haine et ne demandait pas mieux que de se venger. Il se chargea d'aller trouver Jacques Sensi, sans lequel les femmes ne voulaient rien faire, attendu que, comme l'aîné, il était le chef de la famille. Jacques Sensi entra facilement dans la conspiration. On se rappelle ce qu'il avait eu autrefois à souffrir de son père. Depuis, il s'était marié, et le vieillard inflexible l'avait laissé, lui, sa femme et ses enfants, dans la misère. On choisit l'appartement de Monsignor Guerra pour traiter de la chose. Jacques trouva un premier sbire nommé Marzio et Monsignor Guerra un second sbire nommé Olympio. Tous deux avaient des raisons de faire le crime, l'un par amour, l'autre par haine. Marzio, qui était au service de Jacques, avait eu plusieurs fois l'occasion de voir Béatrix et en était devenu amoureux, mais bien entendu de cet amour silencieux et sans espoir qui dévore l'âme. Dès qu'il sut que le crime qui lui était proposé le rapprochait de Béatrix, il accepta sans autre convention. Quant à Olympio, il haïssait Francesco parce que Francesco lui avait fait perdre sa place de châtelain de Roccapetrella, château-forteresse situé dans le royaume de Naples et appartenant au prince Colonna. Presque tous les ans, Francesco Cenci allait avec sa famille passer quelques mois à Rocca Petrella. Car le prince Colonna, qui était un noble et magnifique seigneur, qui avait souvent besoin d'argent et qui en trouvait dans la bourse de Francesco, avait de son côté tous les égards possibles pour son ami. Il en résulta que Francesco, croyant avoir des motifs de mécontentement contre Olympio, s'en plaignit au prince Colonna et Olympio fut chassé. Voici, après plusieurs entrevues, ce qui fut arrêté entre les deux femmes, Jacques et Guerra, Marzio et Olympio, dans des conférences où chacun donna son avis. Le temps où Francesco Cenci avait l'habitude de se rendre à Rocca Petrella était proche. Il fut convenu qu'on réunirait une douzaine de bandits napolitains qu'Olympio, grâce à ses anciennes habitudes dans le pays, se chargea de fournir. Ils se cacheraient dans une forêt qui se trouvait sur la route et, averti du moment où Francesco Cenci se mettrait en chemin, ils l'enlèveraient avec toute sa famille. Alors on conviendrait d'une forte rançon. Les filles seraient renvoyées à Rome pour chercher la somme, mais feignant de ne pas la trouver, ils laisseraient passer le temps fixé par les bandits qui alors tueraient Francesco. De cette manière, tout soupçon de complicité était écarté et les véritables assassins échappaient à la justice. Mais si bien combinée que fut la chose, elle ne put réussir. Lorsque Francesco partit de Rome, l'espion envoyé par les conjurés ne sut point trouver les brigands. Ceux-ci, n'étant point prévenus, ne purent accomplir la convention faite et descendirent trop tard sur la route. Francesco était passé et arrivait en ce moment, sain et sauf, à Rocca Petrella. Les bandits, après avoir erré inutilement sur la route, comprirent que leur proie devait leur être échappée et, ne voulant pas rester plus longtemps dans un lieu où ils avaient déjà séjourné près d'une semaine, ils prirent le parti d'aller chercher ailleurs une expédition moins douteuse. Pendant ce temps, Francesco s'était établi dans la forteresse et pour y être plus libre de tyranniser Lucrezia et Béatrix, il avait envoyé à Rome Jacques et les deux autres fils qui lui restaient. Là, ses tentatives infâmes contre Béatrix recommencèrent et cela à un tel point qu'elle résolut d'accomplir elle-même l'action qu'elle avait d'abord voulu confier à d'autres mains. Olympio et Marzio, qui n'avaient rien à craindre de la justice, n'avaient point osé de rôder dans les environs. Un jour, Béatrix les aperçut de sa fenêtre et leur fit signe qu'elle avait quelque chose à leur communiquer. La même nuit, Olympio, qui, en ayant été châtelain, connaissait toutes les issues de la forteresse, parvint à y pénétrer avec son compagnon. Béatrix les attendait à une fenêtre basse, donnant sur une cour retirée. Là, elle leur donna des lettres qu'elle avait préparées pour Monseigneur Guerra et pour Jacques. Jacques devait approuver, comme la première fois, le meurtre de son père, car Béatrix ne voulait rien faire sans son approbation. Monseigneur Guerra devait, lui, payer 1000 piastres, moitié du prix convenu avec Olympio. Car pour Marzio, il faisait toute chose par amour pour Béatrix, à laquelle il était resté dévot comme à une madone, ce que voyant la jeune fille, elle lui donna un beau manteau écarlate brodé d'un galon d'or, lui disant de le porter pour l'amour d'elle. Quant au reste de la somme, il serait payé par les deux femmes après que la mort du vieillard les aurait rendues maîtresses de sa fortune. Les deux sbires partirent et les prisonnières attendirent avec anxiété le retour. Au jour convenu, elles les virent reparaître. Monseigneur Guerre avait donné les 1000 piastres et Jacques son consentement. Rien ne s'opposait plus à l'exécution du terrible projet et elle fut fixée au 8 septembre, jour de la nativité de la Vierge. Mais la signora Lucrezia, qui était de cœur très religieux, ayant remarqué cette circonstance, ne voulut pas commettre ainsi un double péché. La chose fut donc remise au lendemain 9. En conséquence, le 9 septembre 1598, les deux femmes, en soupant avec le vieillard, versèrent de l'opium dans son verre, et cela avec tant d'adresse que, si difficile à tromper qu'il fût, il ne s'en aperçut point, et, ayant avalé la liqueur soporifique, il tomba bientôt dans un profond sommeil. Dès la veille, Marzio et Olympio avaient été introduits dans la forteresse, où ils s'étaient tenus cachés toute la nuit et tout le jour. Car, ainsi qu'on se le rappelle, c'était la veille qu'aurait eu lieu l'assassinat s'il n'avait été retardé par les scrupules religieux de la signora Lucrezia Petroni. Vers minuit, Béatrix alla les tirer de leur retraite et les conduisit à la chambre de son père, dont elle ouvrit elle-même la porte. Les assassins entrèrent et les deux femmes attendirent l'événement dans la chambre voisine. Au bout d'un instant, elles virent reparaître les sbires pâles et défaits, et comme ils secouaient la tête sans parler, elles comprirent que rien n'était accompli. « Qu'y a-t-il donc ? » s'écria Béatrix. « Et qui vous arrête ?»« Il y a, » répondirent les assassins, « que c'est une lâcheté que de tuer un pauvre vieillard qui dort. En pensant à son âge, la pitié nous a pris. » Alors Béatrix releva la tête avec dédain, et d'une voix sourde et profonde, elle commença de les injurier ainsi. « Donc, vous autres hommes qui faites les braves et les forts, vous n'avez pas le courage de tuer un vieillard qui dort ? Que serait-ce donc alors s'il veillait ? Et c'est pour cela que vous nous volez de l'argent. Or donc, puisque votre lâcheté m'y force, c'est moi qui tuerai mon père. Mais quant à vous, vous ne lui survivrez pas longtemps. » À ces paroles, les sbires eurent honte de leur faiblesse, et faisant signe qu'ils accompliraient l'œuvre convenue, ils entrèrent dans la chambre, accompagnés des deux femmes. En effet, un rayon de lune entrait par la fenêtre ouverte et éclairait la figure calme du vieillard, dont les cheveux blancs avaient fait reculer les assassins. Cette fois, ils furent sans pitié. L'un d'eux tenait deux grands clous, pareils à ceux qui durent servir à la passion du Christ, et l'autre un marteau. Celui qui tenait les clous en posa un verticalement sur l'œil du vieillard, celui qui tenait le marteau frappa, et le clou s'enfonça dans la tête. Ils lui firent entrer de même le second clou dans la gorge, de sorte que cette pauvre âme, chargée de tant de crimes pendant sa vie, sortit ainsi violemment et de force du corps qui se débattait sur la terre où il avait roulé. Alors la jeune fille, fidèle à sa parole, remit aux sbires une grosse bourse qui contenait le reste de la somme convenue et les congédia. Aussitôt qu'elles furent seules, les deux femmes arrachèrent les clous des blessures et, enveloppant le cadavre d'un drap, elles le traînèrent par les chambres afin de le conduire à une petite terrasse d'où elles avaient l'intention de le précipiter dans un jardin inculte. Elles comptaient ainsi faire croire que le vieillard s'était tué seul en se rendant, de nuit, à un cabinet situé à l'extrémité de la galerie. Arrivées au seuil de la dernière chambre, la force leur manqua. Alors, comme elle se reposait un instant, Lucrèce aperçut les deux sbires qui ne s'étaient point encore retirés et partageaient l'or. Elle les appela pour qu'ils vinssent les aider. Ils obéirent, transportèrent le corps sur la terrasse et, à un endroit que leur indiquèrent Béatrix et Lucrèce, ils le précipitèrent sur un sureau dans les branches duquel il s'arrêta. Tout se passa comme l'avaient prévu Béatrix et sa belle-mère. Et le matin, lorsqu'on trouva le cadavre arrêté encore dans les branches du sureau, chacun crut que le pied ayant manqué à Francesco sur cette terrasse où il n'y avait pas de parapet, il était tombé et s'était tué ainsi. Il en résulta qu'au milieu des mille déchirures dont le corps était couvert, on ne fit aucune attention aux blessures faites par les deux clous. Les femmes, de leur côté, au moment où elles apprirent cette nouvelle, sortirent en jetant de grands cris et en versant beaucoup de larmes, de sorte que si quelqu'un avait pu concevoir le moindre soupçon, une douleur si vraie et si profonde l'eût à l'instant même dissipée. Aussi, personne n'en conçut, excepté la blanchisseuse du château, à laquelle Béatrix donna à laver le drap qui avait enveloppé son père, lui disant que cette grande quantité de sang qui le tachait venait d'une perte qu'elle avait éprouvée pendant la nuit. La blanchisseuse la crut ou feignit de la croire. Néanmoins, dans le moment, elle ne dit point un mot de cette circonstance, de sorte que, les funérailles accomplies, les deux femmes retournèrent sans empêchement à Rome, où elles se promettaient enfin une existence plus tranquille. Pendant qu'elles y vivaient sans inquiétude, mais peut-être point sans remords, la justice de Dieu, à son tour, commençait son œuvre. En effet, la cour de Naples avait appris la mort subite et inattendue de Francesco Cenci, et, ayant conçu quelques soupçons que cette mort n'était point naturelle, elle avait envoyé un commissaire royal à Petrella pour faire exhumer le cadavre et rechercher sur lui les traces de l'assassinat, si, effectivement, l'assassinat avait eu lieu. Aussitôt l'arrivée de ce commissaire, tous les habitants du château furent arrêtés et conduits enchaînés à Naples. Mais aucun indice ne fut trouvé, si ce n'est la déposition de la blanchisseuse qui déclara que Béatrix lui avait donné à laver un drap taché de sang. Cependant, cet indice fut terrible, car, interrogée, si, dans son âme et conscience, elle croyait que ce sang vint de la cause qu'avait dite Béatrix, elle répondit qu'elle ne le croyait pas, attendu que les taches lui avaient paru trop vives et trop rouges pour cela. Cette déposition fut envoyée à la cour de Rome, mais sans doute, elle ne parut point suffisante pour entraîner l'arrestation de la famille Saint-Cyr. Plusieurs mois s'écoulèrent donc encore, sans qu'elle fût inquiétée, et pendant lesquels le plus jeune des fils mourut. Des cinq frères, il n'en resta donc plus que deux, Jacques qui était l'aîné, et Bernard qui était le penultième. Pendant ce temps, certes, ils eussent pu se sauver et gagner Venise ou Florence, mais ils n'en eurent pas même l'idée et restèrent à Rome attendant les événements. Cependant, Monsignor Guerre apprit que, pendant les jours qui avaient précédé la mort de Francesco, Marzio et Olympio avaient été remarqués rôdant autour de la forteresse, si bien que la police de Naples avait donné ordre de les arrêter. Monsignor Guerre était un homme de précaution et qu'il était difficile de prendre en défaut lorsqu'il était prévenu à temps. Il fit venir deux autres sbires qu'il chargea d'assassiner Marzio et Olympio. Celui qui était chargé d'Olympio le joignit à Terni et le poignarda consciencieusement comme il s'y était engagé. Mais celui qui devait dépêcher Marzio arriva malheureusement trop tard à Naples. Depuis la veille, l'assassin était entre les mains de la justice. Appliqué à la question, Marzio avoua tout. Sa déposition fut à son tour envoyée à Rome, où il devait la suivre de près pour être confronté avec ceux qu'elle accusait. En même temps, Jacques, Bernard, Lucrezia et Béatrix furent décrétés d'arrestation. Leur prison fut d'abord le palais de leur père, où l'on mit une forte garde de sbires. Mais bientôt, les indices devenant de plus en plus graves, ils furent conduits dans le château de Cortesavella. Là, ils furent confrontés avec Marzio, mais ils nièrent obstinément non seulement leur participation au crime, mais encore qu'ils connussent l'assassin. Béatrix surtout marqua la plus grande assurance, demandant la première à être mise en face de Marzio, et là elle affirma avec tant de dignité et de calme que le dénonciateur mentait, que celui-ci, la retrouvant plus belle que jamais, résolut, puisqu'il ne pouvait vivre pour elle, de la sauver en mourant. En effet, il dit que ce qu'il avait avancé jusque-là n'était que mensonge et qu'il en demandait pardon à Dieu ainsi qu'à Béatrix. Ni menaces ni tortures ne purent dès lors lui faire dire autre chose et il mourut bouche close au milieu des tourments. Les Saint-Cyr se croyaient sauvés. Mais Dieu, dans sa volonté céleste, avait décidé qu'il en serait autrement. Le sbire qui avait tué Olympio fut, sur ses entrefaites, arrêté pour un autre crime. Comme il n'avait aucune raison de cacher les uns plus que les autres, il avoua qu'il avait été chargé par Monsignor Guerre de le débarrasser de quelques inquiétudes qu'il avait à l'endroit d'un assassin nommé Olympio. Heureusement, Monsignor Guerre a pris la chose à temps. Alors, comme c'était un homme admirablement habile, il ne se laissa point intimider ni abattre comme eût fait tout autre à sa place. Et comme, au moment où cette nouvelle lui fut transmise, il avait justement chez lui le charbonnier qui approvisionnait la maison, il le fit entrer dans son cabinet, commença par lui donner une forte somme d'argent pour acheter son silence, puis, lui payant en outre au poids de l'or les vieux et sales vêtements dont il était couvert, il coupa ses beaux cheveux blonds dont il avait un si grand soin, teignit sa barbe, se barbouilla le visage, acheta deux ânes qu'il chargea de charbon et commença de parcourir les rues de Rome en boitant et en criant la bouche pleine de pain noir et de ciboule. « Charbon ! Qui veut du charbon ?» Puis, tandis que toute la sbirerie le cherchait dedans et dehors, il sortit de la ville, rencontra une troupe de condottieri, se mêla à eux et gagna Naples où il s'embarqua de sorte qu'on ne sut jamais ce qu'il était devenu. Cependant, quelques-uns disent, mais sans aucune certitude, qu'il gagna la France, où il s'engagea et servit dans un régiment suisse que Henri IV avait à sa solde. Les aveux du sbire et la disparition de Monsignor Guerre ne laissaient plus de doute sur la culpabilité des Saint-Cyr. Ils furent en conséquence transportés du château à la prison. Les deux frères, mis à la torture, n'eurent point la force de résister et se reconnurent coupables. Lucrezia Petroni, surtout, était si grosse qu'elle ne put supporter la question de la corde et qu'à peine fut-elle soulevée de terre qu'elle demanda qu'on la descendît et qu'elle avoua tout ce qu'elle savait. Quant à Béatrix, elle resta impassible. Ni les promesses, ni les menaces, ni la question ne purent rien sur cette vivace et robuste organisation. Elle supporta tout avec un courage parfait et le juge, Ulysse Moscati, si renommé qu'il fût en pareille affaire, ne lui tira point de la bouche un seul mot qu'elle n'ait voulu dire. Il référa de tout à Clément VIII, n'osa prendre aucune responsabilité dans une si terrible affaire. Alors le pape, craignant que, séduit par la beauté de la coupable qu'il était chargé d'interroger, Ulysse Moscati n'eût mis de la faiblesse dans l'application de la torture, lui tira la cause des mains et en chargea un autre instructeur, connu pour son inflexible rigidité. Celui-ci recommença toute la procédure relative à Béatrix, repassa sur chaque interrogatoire, et s'étant aperçu que Béatrix n'avait été soumise qu'à la question ordinaire, il ordonna qu'elle serait appliquée à la question ordinaire et extraordinaire. Cette question était, comme nous l'avons dit, celle de la corde, l'une des plus terribles de toutes celles que l'homme, si ingénieuse en torture, ait inventées. Mais comme ces quatre mots, « question de la corde » ne présentent pas à nos lecteurs une idée bien nette du genre de supplice qu'ils désirent, nous allons entrer dans quelques détails à ce sujet. Puis nous donnerons un procès-verbal copié dans les pièces du procès qui sont au Vatican. Il y avait à Rome plusieurs sortes de questions en usage. Les plus usitées étaient la question des sifflets, la question du feu, la question de la veille et la question de la corde. La question des sifflets, la plus douce de toutes, ne s'employait qu'à l'égard des enfants et des vieillards. Elle consistait à introduire entre la chair et les ongles du patient des roseaux taillés en sifflets. La question du feu, qui était fréquemment employée avant qu'on eût trouvé celle de la veille, s'appliquait en approchant les pieds du coupable d'un grand feu, à peu près comme faisaient nos chauffeurs. La question de la veille, dont Marsilius est l'inventeur, consistait à faire asseoir l'accusé sur un chevalet haut de 5 pieds et taillé en angle. Le patient était nu et avait les bras attachés par derrière au chevalet. Deux hommes étaient assis à ses côtés, qui se relevaient toutes les 5 heures et qui, aussitôt qu'il fermait les yeux, l'empêchaient de dormir. Marsilius dit qu'il n'a jamais vu un homme résister à cette torture, mais Marsilius se vante. Farinacci constate seulement que sur 100 accusés appliqués à cette question, il n'y en a que 5 qui n'ont pas avoué. C'est déjà bien flatteur pour celui qui l'a inventé. Enfin, la question de la corde, la plus usitée de toutes et qui était connue en France sous le nom de l'estrapade. Cette dernière torture était divisée en 3 degrés. La torture légère, la torture grave et la torture très grave. Le premier degré, ou la torture légère, consistait dans la peur même de la torture. Elle renfermait la menace de la torture, la conduite dans la chambre de la torture, enfin le déshabillement et la ligature des cordes, comme si l'on allait être appliqué à la torture. Outre la crainte qu'inspiraient ces préparatifs, on remarquera qu'il y avait déjà un commencement de douleur dans la compression des poignets. Ce premier degré suffisait quelquefois pour faire avouer leur crime aux femmes et aux hommes à cœur faible. Le second degré, ou la torture grave, consistait, lorsque le patient était déshabillé et attaché par les poignets, les mains derrière le dos, à passer la corde dans un anneau scellé à la voûte et à rattacher cette corde à une manivelle au moyen de laquelle on pouvait à volonté lever ou baisser le patient, et cela doucement ou par secousse, à la volonté du juge. Cette opération terminée, on lui faisait quitter la terre pendant le temps d'un paternoster, d'un Ave Maria ou d'un Miserere. S'il continuait de nier, on doublait la suspension. Ce second degré de torture, auquel finissait la question ordinaire, s'appliquait lorsque le crime était probable, mais sans être prouvé. Le troisième degré, ou la torture très grave, auquel commençait la question extraordinaire, s'appelait ainsi lorsque le patient, après avoir été suspendu par les poignets pendant 1 quart d'heure, 1/2 heure, 3 quarts d'heure ou même 1 heure entière, était mis en branle par le bourreau, soit à la manière du battant d'une cloche, soit en le laissant tomber de haut en bas, en l'arrêtant tout à coup à quelque distance de terre. S'il résistait à cette question, ce qui était presque inouï, en ce qu'elle coupait les poignets jusqu'aux os et disloquait les membres, on ajoutait des poids aux pieds, ce qui, doublant la pesanteur, doublait la torture. Cette dernière question n'était appliquée que lorsque le crime était non seulement prouvé, mais encore atroce, et qu'il avait été commis sur une personne sacrée comme un père, un cardinal, un grand prince ou un savant. On a vu que Béatrix avait été condamnée à la question ordinaire et extraordinaire. On sait quelle était cette question. Maintenant, laissons parler le greffier. Et comme pendant tout l'interrogatoire, elle n'avait rien voulu avouer, la fit me prendre par deux sbires qui la conduisirent de la prison à la chambre de la torture où l'attendait le questionneur. Et là, après lui avoir rasé les cheveux, le questionneur la fit asseoir sur la petite sellette, la déshabilla, la déchaussa, lui lia les mains derrière le dos, les attacha à un câble passé par une poulie scellée au faîte de ladite chambre et revenant s'attacher par le bas à un rouet tournant à la force de deux hommes et avec quatre bâtons. Et avant que de la faire tirer, l'interrogeâmes de nouveau sur le dit parricide. Mais malgré les aveux de son frère et de sa belle-mère, qui lui furent de nouveau représentés, signés d'eux, elle nia constamment en disant « Faites-moi tirer et faire ce que vous voudrez. Je vous ai dit la vérité et ne vous dirai rien autre chose quand je devrais être démembrée. » En raison de quoi la fit me tirer, ayant, comme nous avons dit, les mains liées aux dix câbles, jusqu'à la hauteur de deux pieds ou environ, et l'ayant laissée ainsi pendant tout le temps que nous mîmes à réciter un paternoster, nous l'interrogeâmes de nouveau sur les faits et circonstances du dit parricide. Mais elle ne voulut dire autre chose que ce qu'elle avait déjà dit, ni répondre autre parole que celle-ci « Vous me tuez, vous me tuez ». Nous la fîmes monter plus haut et jusqu'à la hauteur de quatre pieds et commençâmes un Ave Maria. Mais à moitié de notre prière, elle feignit de s'évanouir. Nous lui fîmes jeter un seau d'eau sur la tête. En sentant la fraîcheur, elle revint à elle et s'écria « Mon Dieu, je suis morte, vous me tuez, mon Dieu !» mais sans vouloir aucunement répondre autre chose. Nous la fîmes monter plus haut et dîmes un miserere, pendant lequel, au lieu de se réunir à nous par la prière, elle se remua et s'écria, disant plusieurs fois « Mon Dieu, mon Dieu !» Et, de rechef, interrogée sur le dit parricide, ne voulut rien autre chose avouer, sinon qu'elle était innocente, et à l'instant s'évanouit. Nous lui fîmes encore jeter de l'eau, alors elle revint à elle, ouvrit les yeux et s'écria « Ô bourreau maudit, vous me tuez, mais sans vouloir dire autre chose. » Ce que voyant, et qu'elle persistait dans ses dénégations, nous ordonnâmes au questionneur de passer à la secousse. En conséquence, le questionneur la souleva jusqu'à la hauteur de 10 pieds, et là, nous l'interpellâmes de nous dire la vérité. Mais soit qu'elle eût perdu la parole, soit qu'elle ne voulut plus parler, elle répondit seulement par un geste de la tête, signifiant qu'elle ne voulait ou ne pouvait rien dire. Ce que voyant, nous fîmes signe au bourreau de lâcher la corde, et elle retomba de tout son poids de la hauteur de 10 pieds à la hauteur de 2 pieds, et de la secousse, ses bras se retournèrent à l'envers. Elle poussa un grand cri et demeura comme pâmée. Nous lui fîmes jeter de l'eau au visage. Elle revint à elle et s'écria encore une fois « Infâmes assassins, vous me tuez, mais dussiez-vous m'arracher les bras, je ne vous dirai pas autre chose. » En conséquence, nous ordonnâmes qu'il lui fût attaché au pied un poids de 50 livres. Mais en ce moment, la porte s'ouvrit et plusieurs voix crièrent « Assez, assez, ne la faites pas souffrir plus longtemps !» Ces voix étaient celles de Jacques, de Bernard Saint-Cyr et de Lucrezia Petroni. Les juges, ayant vu l'obstination de Béatrix, avaient ordonné la confrontation des accusés qui ne s'étaient pas trouvés ensemble depuis 5 mois. Ils s'avancèrent alors dans la chambre de la question et voyant Béatrix suspendue, les bras luxés et toute couverte du sang qui coulait de ses poignets, « Le péché est commis !» lui cria Jacques. « Maintenant, il faut faire pénitence pour sauver l'âme, supporter de bon cœur la mort et ne point te laisser torturer ainsi. » alors secouant la tête comme pour écarter la douleur. « Donc, dit Béatrix, vous voulez mourir, puisque vous voulez que ce soit ainsi, que cela soit donc. » Puis, se tournant vers les sbires, « Déliez-moi, ajouta-t-elle, lisez-moi l'interrogatoire, et ce que je dois approuver, je l'approuverai. Ce que je dois nier, je le nierai. » Alors Béatrix fut descendue et déliée. Un barbier lui rhabilla les bras en la manière accoutumée. On lui lut l'interrogatoire ainsi qu'elle le demandait, et ainsi qu'elle l'avait promis, elle avoua tout. À la suite de ses aveux, sur la demande des deux frères, ils furent réunis tous dans la même prison. Mais le lendemain, Jacques et Bernard furent conduits dans les cachots de Tordinone. Quant aux deux femmes, elles restèrent où elles étaient. Le pape, à la lecture des aveux qui contenaient tous les détails du crime, fut saisi d'une si grande horreur qu'il ordonna que les coupables fussent traînés dans les rues de Rome à la queue de chevaux indomptés. Mais une sentence si terrible révolta tout le monde, si bien que plusieurs grands personnages, cardinaux ou princes, allèrent humblement se mettre à genoux devant le Saint-Père, le suppliant avec obstination de révoquer son arrêt ou de permettre au moins aux condamnés de présenter leur défense. « Et eux, répondit Clément VIII, ont-ils donné à leur malheureux père le temps de présenter la sienne lorsqu'ils l'ont tué ignominieusement et sans miséricorde ?» Enfin, vaincu par tant de prières, il accorda 3 jours. Aussitôt, s'emparant de cette cause si émouvante, les meilleurs et les plus grands avocats de Rome se mirent à écrire des mémoires et des conseils et, le jour fixé pour la cause, comparurent devant sa sainteté. Le premier qui parla fut Nicolas des Anges, et dès son exorde, il mit dans ses paroles une telle éloquence que l'on comprit, au frémissement de l'assemblée, l'intérêt qu'elle prenait aux coupables. Alors le pape, effrayé d'un tel effet, l'arrêta tout à coup. « Donc, dit-il avec une voix pleine d'indignation, il se trouvera parmi la noblesse des gens qui tueront leur père, et il se trouvera parmi les avocats des hommes qui les défendront. C'est ce que nous n'aurions jamais cru, c'est ce que nous n'aurions même jamais supposé. » À cette terrible admonestation du pape, tous se turent, excepté Farinacci, qui, prenant courage à la pensée du mandat sacré dont il était chargé, répondit avec respect, mais avec fermeté, « Très Saint-Père, nous ne sommes pas venus ici pour défendre les criminels, mais pour sauver les innocents. Car si nous parvenons à prouver que quelques-uns des accusés ont agi dans le cas de légitime défense, j'espère que cela sera excusable aux yeux de votre sainteté. Car de même qu'il y a des cas prévus dans lesquels le père peut tuer l'enfant, il en est aussi dans lesquels l'enfant peut tuer le père. En conséquence, nous parlerons quand il plaira à votre sainteté de nous laisser parler. » Clément VIII alors se montra aussi patient qu'il avait été emporté, et il écouta le plaidoyer de Farinacci qui reposait surtout sur ce que Francesco Cenci avait cessé d'être père du jour où il avait fait violence à sa fille. Il invoqua comme preuve de cette violence le mémoire envoyé par Béatrix à sa sainteté, par lequel elle le suppliait, comme avait fait sa sœur, de la tirer de la maison paternelle et de la mettre dans un couvent. Malheureusement, comme nous l'avons dit, ce mémoire avait disparu, et l'on avait eu beau faire les recherches les plus minutieuses à la secrétaire, on n'avait pu en retrouver aucune trace. Le pape se fit remettre toutes les écritures et congédia les avocats qui se retirèrent aussitôt, qui, à l'exception d'Altieri, qui étant resté le dernier, alla s'agenouiller aux pieds du pape, lui disant « Très Saint-Père, je ne pouvais faire autrement que de comparaître devant votre sainteté dans cette cause, étant l'avocat des pauvres, mais je vous en demande humblement pardon. » Le pape le releva avec bonté et lui dit « Allez, nous ne nous étonnons pas de vous, mais des autres qui les protègent et les défendent. » Et comme le pape avait à cœur cette cause, il ne voulut point dormir de toute la nuit et se mit à l'étudier avec le cardinal de San Marcello, homme très intelligent et très expérimenté en cette matière. Puis, son résumé fait, il le communiqua aux avocats qui en demeurèrent satisfaits et qui commencèrent à espérer qu'il serait fait au condamné grâce de la vie. Car d'après toutes les informations, il était prouvé que si les enfants s'étaient levés contre leur père, du moins tous les torts et tous les outrages venaient de lui, et que ces torts et ces outrages étaient surtout tels vis-à-vis de Béatrix qu'elle avait en quelque sorte été tirée par les cheveux jusqu'à cet énorme crime par la tyrannie, la scélératesse et la brutalité de son père. Ce fut donc sous l'empire de ce retour à des sentiments de rémission que le pape ordonna que les accusés fussent de nouveau conduits au secret et permit qu'on leur laissât même entrevoir l'espérance de la vie. Rome respirait, espérant comme cette malheureuse famille, et joyeuse comme si cette grâce privée était une grâce publique, lorsque les bonnes intentions du pape s'évanouirent à la nouvelle d'un nouveau crime. La marquise de Santa Croce venait d'être tuée, à l'âge de 60 ans, par Paul de Santa Croce et son fils, et cela atrocement, de 15 à 20 coups de poignard, parce qu'elle ne voulait pas lui promettre de le faire son seul héritier. Le coupable avait pris la fuite. Clément VIII s'épouvanta en voyant se dresser devant lui ces deux crimes presque jumeaux. Cependant, il était forcé, pour le moment, de se transporter à Montecavallo, où, dans la matinée suivante, il devait consacrer un cardinal comme titulaire de l'église de Sainte-Marie-des-Anges. Mais dès le lendemain, qui était le vendredi 10 septembre 1599, il fit venir vers 8 heures du matin Monseigneur Taverne, gouverneur de Rome, et lui dit « Monseigneur, nous vous remettons la cause des Saints-Cy entre les mains, afin qu'il en soit fait par vous bonne justice, et cela le plus tôt possible. » Monseigneur Taverne acquitta aussitôt sa sainteté, et étant rentré dans son palais, il convoqua une réunion de tous les juges criminels de la ville, réunion dans laquelle les Saints-Cy furent condamnés à la peine de mort. La sentence définitive fut aussitôt connue. Et comme cette malheureuse famille inspirait un intérêt toujours croissant, beaucoup de cardinaux coururent toute la nuit, soit à cheval, soit en carrosse, pour obtenir qu'au moins l'arrêt fût exécuté secrètement et dans la prison pour les femmes, et qu'il y eût grâce accordée à Bernardino, pauvre enfant de 15 ans, qui, n'ayant pris aucune part au crime, se trouvait cependant enveloppé dans la condamnation. Et celui qui se donna le plus de peine et de travail pour cette cause fut le cardinal Sforza, qui, cependant, ne put rien tirer de sa sainteté, pas même une vague espérance. Farinacci seul, en faisant naître un scrupule de conscience, parvint à obtenir du pape que Bernardino aurait la vie sauve, et cela seulement le samedi matin, après de longues et instantes prières. Mais déjà, dès la veille, les congrégations des Confortieri s'étaient rendues aux deux prisons de Cortesavelle et de Tordinone. Cependant, comme les préparatifs de cet immense drame qui devait se dérouler sur le pont Saint-Ange avaient pris toute la nuit, ce ne fut que vers 5 heures du matin que le greffier entra chez Béatrix et Lucrezia Petroni pour leur lire la sentence. Toutes deux dormaient, sans se douter de ce qui s'était passé depuis 3 jours. Le greffier les réveilla pour leur dire que, jugées par les hommes, il fallait qu'elles se préparassent à paraître devant Dieu. Béatrix fut d'abord écrasée du cou. Elle ne trouvait ni parole pour se plaindre, ni habit pour se vêtir, et se leva de son lit, nue et chancelante, comme si elle eût été ivre. Bientôt, cependant, la parole lui revint et s'échappa par des cris et des hurlements. Lucrezia écouta cette nouvelle avec plus de force et de constance et commença de s'habiller pour se rendre à la chapelle, exhortant Béatrix à la résignation. Mais celle-ci, toujours comme insensée, allait se tordant les bras et se frappant la tête contre la muraille, s'écriant seulement « Mourir, mourir, qu'il faille mourir ainsi à l'imprévu, sur un échafaud, sur un gibet, mon Dieu, mon Dieu !» Cette crise alla croissant jusqu'à un paroxysme terrible, après lequel, le corps ayant perdu toute sa force, l'âme reprit la sienne. Dès ce moment, elle fut un ange d'humilité et un miroir de constance. Ses premières paroles furent pour demander un notaire qui fit son testament. Cette demande lui fut aussitôt accordée. Et dès que l'homme de loi fut arrivé, voulant en finir d'un seul coup avec la terre, elle lui en dicta les conditions avec beaucoup de calme et de régularité. Elle termina ce testament en demandant que son corps fût déposé dans l'église de Saint-Pierre in Montorio, que l'on voyait du palais de son père et à laquelle elle avait une dévotion toute particulière. Elle laissa 500 écus aux religieuses des stigmates et ordonna que, de sa dot, qui se fût montée à 15 000 écus, on mariât 50 filles pauvres. Quant à la place où elle devait être enterrée, elle choisit le pied du maître-autel sur lequel était le beau tableau de la Transfiguration qu'elle avait si souvent admiré pendant sa vie. Lucrezia, édifiée par cet exemple, commença alors à son tour ses dispositions dernières. Elle demanda que son corps fût porté dans l'église de Saint-Georges-en-Velabre avec 32 écus d'aumône et plusieurs autres legs pieux. Ces soins suprêmes accomplis, les deux femmes se réunirent d'un seul cœur pour adorer Dieu et, se mettant à genoux, commencèrent à réciter les psaumes, les litanies et les prières des agonisants. Elles restèrent ainsi jusqu'à la 8e heure de la nuit, où elles demandèrent la confession et entendirent la messe, pendant laquelle elles communièrent. Puis, par ces saintes préparations ramenées aux plus humbles sentiments, Béatrix fit observer à sa belle-mère qu'il n'était point convenable qu'elle parusse sur un échafaud avec des habits de fête. Elle ordonna donc deux vêtements, un pour la signora Lucrezia, l'autre pour elle-même, recommandant qu'ils fussent faits à la manière des religieuses, c'est-à-dire montant jusqu'au cou et plissés, avec des manches longues et larges. Celui de la signora Lucrezia était d'étoffe de coton noir, celui de Béatrix était de taffetas. Elle avait fait faire en outre un petit turban pour poser sur sa tête. Ces différents vêtements leur furent apportés avec des cordes pour se ceindre. Elles les firent alors poser près d'elle sur une chaise et continuèrent de prier. Le moment fixé étant venu, elles furent averties que leur heure suprême était proche. Alors Béatrix y était encore à genoux, se levant avec un visage calme et presque joyeux. « Madame ma mère, dit-elle, voilà l'instant où notre passion va commencer. Je pense donc qu'il serait temps de nous préparer et de nous rendre l'une à l'autre le dernier service, de nous habiller comme nous en avions l'habitude. » Alors elles revêtirent les robes préparées, se ceignirent le corps avec les cordes, et Béatrix, ayant posé son turban sur sa tête, elles attendirent ainsi leur dernier appel. Pendant ce temps, on avait lu la sentence à Jacques et à Bernard, et ils attendaient de leur côté aussi le moment de la mort. Vers les 10 heures, la congrégation de la Miséricorde, qui était florentine, arriva à la prison de Tordinos et s'arrêta sur le seuil avec le Saint-Crucifix, attendant les pauvres jeunes gens. Là, il manqua d'arriver un malheur grave. Comme beaucoup de personnes étaient aux fenêtres de la prison pour en voir sortir les patients, quelqu'un poussa un grand vase de fleurs plein de terre, lequel tomba dans la rue et manqua de tuer un des confrères, justement de ceux qui, tenant à la main des torches allumées, marchaient devant le crucifix. Ce vase passa si près de la flamme que le vent l'éteignit. En ce moment, les portes s'ouvrirent et Jacques parut le premier sur le seuil. Il s'agenouilla aussitôt, adorant avec une grande dévotion le Saint Crucifix. Il était vêtu d'une large cape de deuil qui le couvrait entièrement et sous laquelle il avait la poitrine nue, car tout le long du chemin, le bourreau devait le tenailler avec des tenailles rouges qui attendaient dans un réchaud fixé sur la charrette. Il monta dans la voiture où le bourreau l'accommoda à sa manière et pour sa plus grande facilité. Alors Bernardino sortit à son tour et, au moment où il parut, le fiscal de Rome dit ces paroles à haute voix. « Seigneur Bernascensi, au nom de notre bienheureux Rédempteur, notre Saint-Père le Pape vous fait grâce de la vie, se contentant d'ordonner que vous fassiez compagnie à tout votre sang jusqu'à l'échafaud et jusqu'à la mort, vous recommandant de ne point oublier de prier pour ceux avec qui vous deviez mourir. » À cette nouvelle inattendue, il se fit un grand murmure de joie dans la multitude, et les pénitents lui délièrent aussitôt la petite planche qu'il avait devant les yeux, car à cause de la faiblesse de son âge, on avait cru devoir lui cacher la vue de l'échafaud. Alors le bourreau, qui avait fini avec Jacques, descendit pour prendre Bernard, et après s'être fait représenter la grâce, il lui ôta les menottes, et l'ayant placé sur la même charrette que son frère, il l'enveloppa d'un manteau magnifique tout frangé d'or, car le pauvre enfant avait déjà le cou et les épaules nues, devant avoir la tête tranchée. Quelques-uns s'étonnaient de voir entre les mains de l'exécuteur un si riche manteau. Mais on leur dit que c'était le même que Béatrix avait donné à Marzio pour le décider à l'assassinat de son père, et dont le bourreau avait hérité après l'exécution du meurtrier. La vue de tout ce monde fit une telle impression sur le petit Bernard qu'il s'évanouit. Les chants commencèrent et la procession se mit en route, se dirigeant vers la prison de Cortesavella. Arrivé devant la porte, le Saint Crucifix s'arrêta pour attendre les femmes. Elles sortirent bientôt, se mirent à genoux sur le seuil et firent à leur tour leur adoration. Puis le cortège se remit en marche. Les deux femmes venaient après la dernière file des pénitents, marchant à pied l'une après l'autre, ayant chacune la tête couverte jusqu'à la ceinture, avec cette différence que la signora Lucrezia, en sa qualité de veuve, portait un voile noir et avait des pantoufles de la même couleur, à hauts talons, avec des touffes de ruban, ainsi que c'était la mode de l'époque, tandis que Béatrix, comme jeune fille, avait un béret de soie pareil à la soubre veste, avec une panne brodée d'argent qui lui tombait sur les épaules et recouvrait sa soutanelle violette, des pantoufles blanches à hauts talons ornées de bouffettes d'or et de franges cerises. En outre, toutes deux avaient les bras libres et seulement attachés avec une corde lâche afin que chacune pût porter un crucifix d'une main et de l'autre son mouchoir. Dans la nuit du samedi, un grand échafaud avait été dressé sur la place du pont Saint-Ange et sur cet échafaud, on voyait préparer la planche et le billot. Au-dessus du billot était suspendu, entre deux traverses, un large fer qui, glissant entre deux rainures, descendait de tout son poids sur le billot au moment où l'on détendait un ressort. Ce fut donc vers le pont Saint-Ange que s'achemina la procession. Lucrezia, qui était la plus faible des deux, pleurait amèrement, mais Béatrix avait le visage calme et ferme. Arrivées à la place du pont Saint-Ange, les femmes furent aussitôt conduites dans une chapelle où l'on amena bientôt près d'elles Jacques et Bernard. Ils y restèrent un instant réunis tous quatre. Puis on vint chercher d'abord Jacques et Bernard pour les conduire sur l'échafaud, quoique l'un ne dût être exécuté que le dernier et que l'autre eût sa grâce. Mais en arrivant sur la plateforme, Bernard s'évanouit une seconde fois. Et comme le bourreau allait à lui pour lui porter secours, quelques-uns, croyant que c'était pour l'exécuter, crièrent à haute voix « Il a sa grâce !» Le bourreau les rassura en faisant asseoir Bernard près du billot. Jacques se mit à genoux de l'autre côté. Alors le bourreau descendit, alla vers la chapelle et ramena d'abord la signora Lucrezia qui devait être exécutée la première. Arrivé au pied de l'échafaud, il lui lia les mains derrière le dos, lui déchira le haut de son corsage afin de découvrir ses épaules et lui fit faire sa réconciliation en l'invitant à baiser les plaies du Christ. Cela fait, il la conduisit à l'échelle qu'elle eut grand-peine à monter, étant fort grasse. Puis, aussitôt arrivé sur la plateforme, il lui arracha le voile qui lui couvrait la tête. Ce fut une grande honte pour la signora Lucrezia d'être vue ainsi le sein découvert et, regardant le billot, elle eut un frémissement d'épaule qui fit frissonner toute l'assemblée. Alors, les larmes aux yeux et d'une voix élevée, elle dit « Oh mon Dieu, ayez pitié de moi, et vous, mes frères, priez pour mon âme !» Puis, ces paroles dites, et comme elle ne savait de quelle façon se placer, elle se tourna vers Alexandre, le premier bourreau, et lui demanda ce qu'elle avait à faire. Il lui répondit d'enjamber la planche et de s'étendre dessus, ce qu'elle fit avec une grande peine et une grande honte. Mais alors, comme elle ne pouvait, à cause de son sein élevé, poser son cou sur le billot, il fallut y ajouter un morceau de bois pour le hausser. Pendant tout ce temps, la pauvre femme attendait, souffrant plus encore de la honte que de la crainte de la mort. Enfin, elle fut accommodée convenablement, le bourreau lâcha le ressort, et la tête, détachée du tronc, tomba sur l'échafaud, où elle fit deux ou trois bonds au grand frémissement de la multitude. Enfin, le bourreau la saisit et la montra au peuple. Puis, l'enveloppant d'un taffetas noir, il la posa avec le corps dans une bière au bas de l'échafaud. Pendant qu'on remettait toutes les choses en place pour Béatrix, des gradins chargés de monde s'abîmèrent. Beaucoup furent tués par cet accident, et plus encore, estropiés et blessés. La machine arrangée et le sang lavé, le bourreau retourna dans la chapelle pour y prendre Béatrix, qui, ayant aperçu d'abord le Saint Crucifix, dit quelques prières pour son âme, et, voyant venir le bourreau avec des cordes à la main, s'écria « Dieu veuille que tu lies ce corps pour la corruption et que tu délies cette âme pour l'immortalité !» Alors, se relevant, elle sortit sur la place, où elle baisa dévotement les plaies du Christ, puis, laissant ses pantoufles au bas de l'échafaud, elle monta lestement l'échelle. Et comme elle avait pris d'avance ses informations, elle enjamba vivement la planche, s'ajustant avec le plus de promptitude possible, la tête sur le billot, afin qu'on ne vît pas ses épaules nues. Mais, quelques précautions qu'elle eût prises pour que la chose fût promptement faite, il lui fallut attendre, car le pape, connaissant son caractère emporté et craignant qu'elle ne commît quelque péché entre l'absolution et la mort, avait donné l'ordre qu'au moment où Béatrix serait sur l'échafaud, on tira comme signal un coup de canon du château Saint-Ange. Ce qui fut fait au grand étonnement de tout le monde, car personne ne s'attendait à cette détonation, pas même Béatrix, qui se leva presque debout. Aussitôt le pape, qui était en prière à Montecavallo, donna à Béatrix l'absolution in articulo mortis. 5 minutes se passèrent donc encore à peu près, pendant lesquelles la patiente attendit, le cou replacé sur le billot. Puis, quand le bourreau crut l'absolution donnée, il lâcha le ressort et le couperet tomba. Alors on vit un effet étrange. Tandis que la tête bondissait d'un côté, le corps se recula comme marchant en arrière. Aussitôt, le bourreau prit la tête et la montra au peuple. Puis il l'accommoda comme il avait fait de l'autre et voulut mettre le corps de Béatrix avec celui de sa belle-mère. Mais les confrères de la miséricorde le lui prirent des mains et comme l'un d'eux voulait le placer dans la bière, il lui échappa et tomba de l'échafaud à terre et dans cette chute, tout le torse sortit de ses vêtements, de sorte qu'étant plein de poussière et de sang, il fallut perdre beaucoup de temps pour le laver. À cette vue, le pauvre Bernardino s'évanouit une troisième fois, et cela si profondément qu'il fallut lui donner du vin pour le faire revenir. Enfin arriva le tour de Jacques. Il avait vu mourir sa mère et sa sœur, et ses habits étaient couverts de leur sang. Le bourreau s'approcha de lui et lui arracha son manteau. Alors on vit par toute sa poitrine les morsures des tenailles brûlantes. Et il y en avait tant que son corps en était couvert. Aussitôt il se leva ainsi, à moitié nu, et se tournant vers son frère, « Bernard, lui dit-il, si dans mon interrogatoire je vous ai compromis et chargé, je l'ai fait faussement, et quoique j'ai démenti cette déclaration, je répète au moment de paraître devant Dieu que vous êtes innocent et que c'est une justice atroce que celle qui vous a condamné à cet épouvantable spectacle. » Alors le bourreau le fit mettre à genoux, lui attacha les jambes à une des traverses qui s'élevaient sur l'échafaud, et lui ayant bandé les yeux, il lui brisa la tête d'un coup de masse. Puis, au même instant et à la vue de tous, il coupa son corps en 4 quartiers. Aussitôt cette boucherie terminée, la compagnie se retira, emmenant Bernard, et comme il avait une forte fièvre, on le saigna et on le mit au lit. Quant au cadavre des deux femmes, ils furent accommodés, chacun dans sa bière, sous la statue de Saint-Paul, au pied du pont, avec 4 torches de cire blanche qui brûlèrent jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Puis, enlevées alors avec les morceaux du corps de Jacques, elles furent portées à Saint-Jean des Collets. Enfin, vers 9 heures du soir, le corps de la jeune fille, tout couvert de fleurs, revêtu des habits dans lesquels elle avait été exécutée, fut porté à Saint-Pierre in Motorio, avec 50 torches allumées et accompagnées des frères des stigmates et de tous les religieux franciscains de Rome. Là, elle fut, comme elle l'avait désiré, enterrée au pied du maître-autel. Le même soir aussi, selon qu'elle l'avait recommandé, la signora Lucrezia fut portée de son côté dans l'église de Saint-Georges-en-Vélabre. Au reste, on peut dire que Rome tout entière avait assisté à cette tragédie et que les carrosses, les chevaux, les gens à pied et les charrettes étaient les uns sur les autres. Par malheur, ce jour fut si chaud et si ardent que beaucoup de personnes s'évanouirent, que beaucoup rentrèrent avec la fièvre et que beaucoup encore moururent pendant la nuit pour être restés au soleil pendant les 3 heures que dura cette exécution. Le mardi suivant, 14 septembre, à l'occasion de la fête de la Sainte-Croix, la compagnie de Saint-Marcel, avec privilège particulier du pape, délivra de prison le pauvre Bernard Cinci, sous l'obligation de payer dans le courant de l'année 2500 écus romains à la compagnie de la très sainte Trinité du Pont Sixte, ainsi que cela se trouve encore aujourd'hui consigné dans ses archives. Maintenant, si, après avoir vu la tombe, vous voulez vous faire de celle qui y repose une idée plus positive que vous ne pourriez la prendre en un récit, allez visiter la galerie Barberini. Vous y trouverez, avec 5 autres chefs-d'œuvre, le portrait de Béatrix fait par le guide, les uns disent pendant la nuit qui précéda l'exécution, et les autres au moment où elle marchait au supplice. C'est une délicieuse tête coiffée d'un turban d'où retombe une draperie, avec de riches cheveux châtain clair, des yeux noirs où l'on croit voir encore la trace de larmes à peine essuyées, un nez parfait et une bouche d'enfant. Quant au teint, qui était très blanc, on en jugerait mal si l'on s'en rapportait au portrait, la peinture ayant poussé au rouge et les chairs étant devenues couleur de brique. Celle qu'elle représente paraît avoir de 20 à 22 ans. Près de ce portrait est celui de Lucrezia Petroni. On voit à la dimension de la tête qu'elle appartient à un corps plutôt petit que grand. C'est le type de la matrone romaine dans toute sa fierté, avec ses chairs colorées, ses belles lignes, son nez droit, ses sourcils noirs et son regard à la fois impérieux et humide de volupté. On y retrouve, au milieu de ses joues rondes et potelées, ces fossettes charmantes dont parle le chroniqueur et qui faisaient qu'après sa mort, elle semblait encore sourire, une bouche admirable et des cheveux bouclés sur le front qui, retombant le long des tempes, encadraient merveilleusement son visage. Quant à Jacques et à Bernard, comme il ne reste d'eux ni dessin ni peinture, nous sommes forcés d'emprunter leurs portraits ou manuscrits où nous avons puisé tous les détails de cette sanglante histoire. Les voici tels que les donne son auteur, témoin oculaire de la catastrophe où ils ont joué un rôle. Jacques était petit, avait la barbe et les cheveux noirs et pouvait être âgé de 26 ans environ, bien fait de corps et fort de sa personne. Quant à Bernardino, le pauvre enfant était tout le portrait de sa sœur, de telle façon que lorsqu'on le vit paraître sur l'échafaud, avec ses longs cheveux et sa figure de jeune fille, beaucoup crurent d'abord que c'était Béatrix. Il pouvait avoir 14 ou 15 ans. Dieu leur fasse paix.